France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Lâchez-moi donc ces pièces que je ne saurais voir. Le cash avait déjà du plomb dans l'aile. Les distributeurs disparaissaient. Les commerçants, de plus en plus nombreux à ouvrir leurs achats. Une carte bleue sans plancher. Le sans contact avait pris son envol. Le Covid a fait le reste, il accélère la marginalisation du cash, pas seulement le paiement en ligne monte, le paiement sans contact donc, et en même temps les magasins s'encaissent puisqu'on n'a plus besoin qu'on nous rende la monnaie. Mais qu'est-ce qu'on y gagne à tout payer par carte? Qui donc va savoir ce qu'on achète, à quelle fréquence, jusqu'à quel point ça vous pose un problème, vous qui nous écoutez? Qu'est-ce qu'on fait des seniors sans carte bleue? Qu'est-ce qu'on fait des sans-papiers? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont en très grande fragilité financière et donc parfois interdits de carte bleue? Est-ce que sans carte bleue, on devient vite sans grade? Sommes-nous en train de nous retrouver coincés tout seuls dans un système qui serait un système tout carte bleue, tout sans cash, tout en ligne, tout robotisé? Pas de cash, c'est bien pratique quand on a les poches trouées. Est-ce que c'est une liberté de pouvoir quand même payer un café, payer une baguette, aller faire nos courses même à 10h du soir avec simplement une carte bleue et le tour est joué dans les magasins qu'ils proposent? Est-ce qu'on laisse en route justement une part de notre liberté? On en parle ensemble et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Laurent, c'est vous le premier. Bienvenue, Laurent.
Oui,
dans le téléphone sonne.
Merci beaucoup de prendre mon appel. Et vraiment, je suis ému parce que c'est la première fois que je passe sur France Inter. Mais je tiens à témoigner que c'est pas une liberté de payer tout par carte bancaire. C'est une perte totale. La dernière chose qu'on a de liberté, enfin, pas une dernière, mais une des dernières choses qu'on a de la liberté, c'est pouvoir payer avec de la monnaie qui n'est pas tracée, c'est anonyme, un billet ou une pièce. Et donc maintenant, la dernière chose que l'on pourrait perdre, c'est de pouvoir payer d'une manière anonyme. Et là, on est pisté de A à Z. Et c'est moi, ça m'a effondré quand j'ai entendu le thème de l'émission. J'ai dit non, on va quand même pas perdre notre liberté d'acheter sans que personne sache ce qu'on a acheté. Et avoir cette liberté-là.
Et
la liberté, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir acheter sans que personne sache ce qu'on a vraiment acheté.
Et
tout
Laurent,
simplement.
Et Laurent, puisque c'est votre première fois au téléphone sonne, je vous garde un petit peu.
Oui.
Est-ce que vous avez, pendant le confinement par exemple, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plus payé effectivement par carte, d'avoir plus joué avec le sans contact, à votre corps défendant peut-être, mais vous l'avez fait ou pas?
Tout à fait, puisque c'est vrai que on est tenté de le faire justement pour préserver. Dans une période comme ça, c'est vrai que c'est utile, mais que ça devienne systématique, non. Pour une période payée par carte, là, ça protège et ça sauve des vies. On est d'accord. Mais après, que ça devienne d'une manière systématique, c'est comme ça qu'on perd toutes nos libertés en ce moment. C'est que des choses qui sont occasionnelles deviennent systématiques, systémiques. Et c'est là qu'on est vraiment, après, on est coincé. Et c'est ça la perte de liberté pour moi.
Merci beaucoup, Laurent. Merci pour cette entrée en matière. Il y en a beaucoup des questions comme la vôtre, qui nous permettra un peu d'entrer dans le vif de notre sujet et d'en discuter jusqu'à 20h avec Pascal Hébel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste prospectif consommation au Crédoc. Et bonsoir à vous, Fabien Toquet, de l'Union nationale des associations familiales. Pascal Hébel, je vais m'adresser à vous d'abord. Il y en a beaucoup, je le disais, des questions comme celle de Laurent sur cette balance. Attendez, on va savoir ce que j'achète, à quel moment et à tout moment. C'est quelque chose, j'imagine, qui revient aussi souvent dans ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens?
Ah oui, c'est certain que de tout numériser, ça permet en effet d'avoir de l'information sur nos achats. Et d'ailleurs, c'est aussi par ça qu'on arrive à suivre l'économie en ce moment. Mmh. C'est-à-dire que c'est finalement un outil aussi qui nous permet d'anticiper ce qui peut se passer. Et c'est certain qu'en France, on faisait partie des pays qui utilisent le plus des cartes bleues. On est, avant qu'on ait ce confinement, 70% des transactions en France qui se faisaient sous forme de cash, alors qu'en Allemagne, c'est 82-83%. En Italie, c'est 86%. On était déjà quand même, par choix, les Français, parce qu'on a quand même inventé la puce de la carte bleue, déjà très numérisée sur les achats.
Alors c'est intéressant, parce qu'on entendra beaucoup de gens à qui ça fait peur, la fin du cash. Mais effectivement, on avait largement entamé ce déconfinement de notre carte bleue. Pourtant, on n'est pas les premiers en Europe. Il y a des pays qui sont beaucoup plus loin que nous. Est-ce qu'on a déjà du coup du recul sur quelques marches arrière, en fait? On sait ça, Pascal Hébel, ou pas?
Ah, de revenir sur de plus en plus de cash.
Parce que j'avais cru comprendre que la Suède, par exemple, avait été revenue un petit peu précisément pour les gens en grande fragilité, pour les SDF, des systèmes de ce genre-là, puisqu'elle était passée au 100% sans cash, et qu'au fond, on voit qu'il y a quand même quelques freins à ça.
Oui, alors il peut y avoir, en effet, il y a un problème de confiance, notamment sur le sans contact. Hein. C'est pour ça que ça n'avait pas beaucoup démarré. Et ça fait un moment qu'on dit que l'innovation existe. Et on avait d'ailleurs un seuil qui était qu'à 30 euros en France. On vient juste de le lever à 50 euros, alors qu'il y a beaucoup de pays qui étaient déjà à ce seuil-là, parce qu'on avait, il y a eu des fraudes, on avait peur de... Il y a vraiment une peur d'être volé, en fait, hein, avec le numérique, mais aussi d'avoir des billets, c'est évidemment psychologique, c'est-à-dire que ça donne un sentiment de sécurité. Il y a des gens qui aiment bien avoir du liquide, avoir
parce qu'on sait exactement ce qu'on dépense, en fait.
Ce qu'on dépense, et puis ça rassure d'avoir un petit peu d'épargne sous cette forme-là.
Fabien Toquet de l'Union Nationale des Associations Familiales, qu'est-ce qui peut vous inquiéter, vous, le cas échéant, si on généralise le non-cash?
Oui, alors en tant qu'association familiale de consommateurs, on partage tout à fait les inquiétudes de Laurent, déjà, sur le côté liberté publique. Alors que le smartphone envahit un peu nos vies, le cash, c'est vraiment le seul moyen aujourd'hui de ne pas être tracé par cette industrie du big data, hein, qui va tout connaître sur nos modes de consommation et nous pousser des publicités très ciblées pour nous inciter à acheter toujours plus. Donc ça, c'est le premier point. Mais au-delà, il y a vraiment une question sociale. Et d'ailleurs, les libertés publiques, c'est pas la liberté pour soi-même, c'est la liberté aussi des autres. Et là, on parle notamment des publics qui utilisent les espèces comme un moyen de paiement principal, voire unique. Vous parliez de la Suède, c'est un excellent exemple. Effectivement, ils étaient quasiment 100% sans cash. Et en fait, en mars dernier, ils ont voté une loi pour faire machine arrière, loi votée à l'unanimité, pour forcer les banques à distribuer de nouveau des espèces dans l'ensemble du territoire suédois. Et ils l'ont fait pour des raisons d'exclusion sociale. Et en France, on n'est pas du tout, on est exactement dans la même situation, notamment pour certaines personnes handicapées, des personnes retraitées, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi des interdits bancaires, des allocataires de minima sociaux qui n'utilisent que les espèces.
Alors justement, tiens, on a Francine qui nous a appelé au 01 45 24 7000 et c'est le moment de l'entendre. Bonsoir Francis. Bonsoir
oui.
Francine, pardon.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Bah écoutez, vous avez dit beaucoup de choses que j'avais déjà
En tête,
oui, c'est ça. Alors, je vais peut-être insister sur quelque chose. C'est peut-être par mon expérience professionnelle. J'étais paramédicale et j'ai donc connu énormément de personnes, de patients, de tous milieux sociaux. Et la suprématie de la carte bancaire, j'ai remarqué que ça induisait l'augmentation de la consommation, parce que là, il n'y avait plus cette gestion d'un budget, parce que j'ai 200 balles, enfin de 200 euros dans ma poche, je peux pas, voilà. La carte bleue, oh là là, ça sera retiré. Ça, vraiment, je l'ai constaté, mais j'en avais les cheveux qui se défrisaient. Ensuite, je pense vous l'avez déjà dit d'ailleurs, aux personnes interdites bancaires. L'autre jour, j'ai 77 ans, je marche mal, donc je roule pour un petit peu voir ce qui se passe autour de moi. Je suis passée devant la poste dans ma petite ville, et il y avait une queue, c'est parce que ces personnes allaient chercher leurs sous. Enfin, je dis leurs sous.
C'est toujours comme ça qu'ils disent d'ailleurs, je vais chercher mes sous.
Je vais chercher mes sous, hein, ça, voilà. Voilà. Alors il y a des moyens. Alors et en plus, il faut insister sur les suppressions d'emplois encore avec ça. Hein? Alors moi ça me retourne parce que s'il y a des emplois, il y a donc des gens qui touchent un salaire, donc ils sont consommateurs, donc ils font tourner la société, ils font tourner le commerce. Donc là, c'est le chat qui se mord la queue, vous voyez ? C'est le chat qui se mord la queue.
On voit bien, on comprend l'image et on a entendu ce que vous nous avez dit, Francine, Fabien Toquet, ça vient dans le sens de ce que vous disiez. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, auprès des familles avec lesquelles vous travaillez, que avoir du cash induit moins de consommation compulsive au fond et donne une meilleure valeur à l'argent, en tout cas parmi le public qui peut être le vôtre ?
Oui, tout à fait. Les travailleurs sociaux de nos UDAF qui accompagnent les familles en difficulté travaillent beaucoup avec le cash, parce que ça permet en fait de matérialiser la somme qui vous reste une fois que vous avez payé toutes vos factures, ce qu'on appelle le reste pour vivre. Et donc, c'est extrêmement utilisé par les personnes. Et au-delà des questions de virtualisation, il faut savoir aussi que la carte bancaire, mais aussi le chèque ou le prélèvement, ont des coûts cachés que n'ont pas les espèces. Et c'est ce qu'on appelle les frais d'incident bancaire, qui sont des frais qui sont prélevés quand vous avez dépassé votre découvert autorisé à la fin du mois, ou parfois le 15 ou le 5 du mois d'ailleurs, pour plein de bonnes raisons. Et avec ces frais d'incident, ben une baguette, elle vous coûte pas 1 euro si vous la payez en carte, elle vous coûte 9 euros, 1 euro de pain et 8 euros de commission d'intervention. Et ça n'arrive pas quand vous payez avec vos espèces. Et ça, les gens en difficulté l'ont très, très bien compris et ils ont tout à fait raison.
Pascal Hébel, est-ce qu'il y a un profil, au fond, de ceux qui ont adopté le non-cash, le sans-contact, très facilement? Est-ce que c'est aussi simple que quelque chose de générationnel ou de purement social? On a un profil ou pas?
Oui, en effet, là, il y a une enquête qui a été faite parce qu'il y a eu notamment des offreurs qui refusent le cash en ce moment, qui a 1%, 10% des Français qui ont été obligés de payer en carte, et on voit qu'il y a quand même des plus jeunes, sans doute pour des raisons en effet de revenus, qui préfèrent payer en cash. C'est pas essentiellement générationnel, mais globalement, si ça progresse, c'est bien parce que c'est plutôt les 35-50 ans, de nouvelles générations qui sont un peu plus installées et qui vont de plus en plus vers ce côté numérique, notamment parce qu'on a une forte progression du e-commerce. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les conséquences du confinement qui ont conduit une partie des gens, par exemple 2 millions de plus de Français qui ont acheté sur de l'alimentation sur e-commerce. Des gens qui n'utilisaient pas du tout le e-commerce ont été obligés de le faire. Donc ça les induit à continuer.
Est-ce qu'on sait déjà, à un mois de déconfinement, à quel moment on saura, je veux certainement pas vous piéger Pascal Hébel, il y a une tendance qui s'est vraiment accélérée, c'est-à-dire si effectivement les gens payent en sans contact toujours aujourd'hui, si finalement le paiement en ligne, comme vous dites, a gardé cette importance-là, à quel moment on saura s'il y a vraiment une incidence, si les habitudes de consommation ont bougé?
Alors psychologiquement, on dit qu'il faut 8 mois pour avoir un retour à la normale. Alors ça se fera sans doute un peu plus tôt si on n'a pas de nouveau confinement. Donc il faut au moins 2-3 mois. On dit tous qu'il faut attendre au moins la fin de l'année pour savoir si les changements de comportement seront ancrés. Mais les experts ont quand même tous tendance à dire que on a quand même basculé avec peut-être le sans-contact sur lequel on avait des réticences et sans doute un petit peu moins de cash, puisqu'on le voit aujourd'hui, ça s'est mesuré, le retrait de liquide après le confinement a baissé de 20% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que là, on a tous la possibilité d'aller chercher de l'argent et c'est en baisse de 20% par rapport à l'année dernière.
Est-ce qu'on dit que le Covid est le bon au fond que certains attendaient pour passer quasiment la barrière du pas de cash, ou en tout cas un minimum de cash? Est-ce qu'il fallait ça, en fait? Vous le disiez, effectivement, on y était déjà presque. Il fallait un sursaut supplémentaire et le Covid aura servi à ça?
Oui, alors le Covid, vraiment, il a accéléré un mouvement sur le numérique au global, que ce soit le télétravail, que ce soit la télémédecine, l'achat e-commerce et l'utilisation de la carte bleue. Ça fait partie de ce mouvement du numérique qui bascule plus vite, mais c'était quand même un mouvement qui lentement allait forcément se développer. Donc c'est un accélérateur et pas forcément quelque chose qui se serait pas passé. C'est juste que ça va se faire
accélérer les choses. 6 mois plus qu'un an, 10 ans. Six mois plus que 10 ans, c'est quand même une vraie différence quand même.
Non, mais enfin, je pense que voilà, c'est vraiment un accélérateur sur ce genre de comportement. Après, sans doute que les personnes en difficulté et les personnes les plus âgées auront besoin de liquide. Donc ça va pas changer.
Fabien Toquet, je sais que vous voulez réagir. On retournera au standard juste après. Je vous écoute, Monsieur Toquet.
Oui, alors le Covid accélère certes des tendances, notamment sur la digitalisation, mais il accélère aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire l'exclusion numérique. Et là, on sait que toutes ces personnes que j'ai citées tout à l'heure, ils vont avoir une exclusion supplémentaire si c'est de plus en plus difficile de faire ses courses, de payer son loyer, ses factures avec les espèces. Et qu'est-ce qu'on veut pour eux ? Est-ce qu'on veut qu'ils soient des citoyens de seconde zone ? L'argent liquide, c'est le seul moyen de paiement que les commerçants ne peuvent pas refuser.
Absolument,
c'est
interdit.
C'est le législateur qui l'a dit, donc c'est une pratique illégale qui reconnaît en fait l'universalité de l'argent liquide, qui est le seul moyen de paiement que l'ensemble des Français est en capacité d'utiliser.
Serge, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, merci de me prendre dans l'antenne, puis bonsoir à vos invités. Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Laurent, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui sur les libertés. Bon, c'est vrai que c'est une atteinte de plus à nos libertés. Mais par contre, alors moi je suis, pendant le confinement, je n'ai absolument pas changé mes habitudes. Je fais un maximum de commerce local. Donc les petits commerçants de ma petite ville, je ne veux pas les obliger, disons, à payer des taxes dans les banques avec une carte bleue, parce que bon, c'est eux qui payent, et puis c'est nous qui paierons par la suite, parce qu'ils augmenteront automatiquement les produits, ça c'est évident. C'est donc je continue à avoir un maximum de tous mes petits achats dans la semaine. Je me sers de l'argent liquide. Je me sers de la carte bleue que lorsque ça dépasse, disons que ça dépasse 30 €. Bon, à ce moment-là, je prends ma carte bleue dans les supermarchés. Et alors dans les supermarchés, je boycotte totalement les supermarchés qui mettent des caisses automatiques. C'est encore une perte d'emploi supplémentaire. C'est encore des gens qu'on va mettre au chômage. Alors et puis c'est pas plus beau d'avoir une caissière ou un caissier. On peut discuter 2 secondes tout en prenant ses affaires. Je sais pas quel monde nous vivons, mais c'est vraiment je suis dans la dernière partie, mais bon c'est déplorable.
On espère quand même, Serge, que votre dernière partie sera le plus longue possible. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que c'est aussi une tendance, Pascal Ebel, ça, qui viendra du confinement qui existait avant, qui a été critiqué, et puis finalement pas généralisé, mais enfin quand même beaucoup utilisé, à partir des magasins sans caissier, sans caissière, des automates? Et puisqu'on n'a plus besoin de cash, puisqu'on n'a plus de cash, qu'est-ce qui empêcherait de généraliser ce mode de consommation après tout ?
Oui, il y a déjà des magasins qui existent, inventés par Amazon, où on rentre et on paye sans cash. On en a parlé avant le confinement, au moment des grèves, en fait, certaines enseignes.
Et pas seulement, des supermarchés aussi, qui passaient heure non plus de caissier ni de caissière, etc.
Oui, c'est vrai que le confinement accélère ce genre de choses et on peut utiliser ce prétexte-là pour dire, ben, vous voyez, dans certaines situations, c'est indispensable de passer au tout numérique. C'est le danger sur beaucoup de sujets. On voit en effet les gros qui sont étrangers, les grosses enseignes qui évidemment gagnent des parts de marché. C'est eux les grands gagnants sur l'économique en ce moment, puisqu'ils ont pu continuer à vendre alors que les magasins physiques n'ont pas pu. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des limites au système, mais c'est vrai que ça pue aussi pour les acteurs. Il y a des producteurs de produits agricoles qui, en utilisant ce système-là, ont pu continuer à vendre. Donc ça facilite les échanges dans cette situation aussi.
Fabien Toquet ?
Oui, en fait, on parle bien de normes, en fait, de consommation, et on sait très bien que c'est toujours difficile de faire contre la norme. Donc, si vos auditeurs, ils ont envie de faire quelque chose pour aller dans le sens dont on a parlé, ils peuvent tout à fait retirer du cash beaucoup plus souvent qu'ils ne le font aujourd'hui. Ça nourrira des statistiques qui montreront que le cash ne s'effondre pas année après année, et du coup, ça sera plus dur de passer à autre chose. Tout ça est extrêmement systémique, y compris sur la question des caisses automatiques.
Clément, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Clément.
Merci. Alors, moi, je vais pas revenir sur ce qu'ont dit les interlocuteurs précédents. Il y a déjà eu donc les questions d'emploi et les questions de budget des ménages. Et pour moi, le cash, la carte, c'est très virtuel et je préfère de loin le cash. Ça permet de voir ce que l'on donne, alors que sur la carte, on donne que son code. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que le cash, c'est l'un des aspects régaliens de l'État. La monnaie tactile, c'est l'un des aspects régaliens. Et donc là, on a un recul de l'État, notamment par le paiement des impôts sur Internet via par la carte bancaire. Donc on a un recul de l'État l'État au profit du privé. Et ça, ça m'interpelle énormément. Et on peut rajouter à ça la commission que se prennent les banques hein, lorsqu'il y a des achats par carte bancaire. Il y a ça aussi. Et enfin, il y a tout un pan de l'économie. Qu'est-ce qu'on va donner aux SDF qui font la manche dans la rue ? Est-ce qu'on va leur donner un ticket de carte bancaire plus tard ? Je ne sais pas.
Alors,
bon, une dernière réflexion.
Allez-y.
Je ne pense pas qu'on aille vers le tout. Une partie de la société, notamment pendant le confinement, ont déclaré leur besoin de lien social et de pouvoir parler à des gens. Et donc, je pense qu'il y a il y aura quand même des réticences à passer au tout numérique.
Merci beaucoup pour ces remarques, Clément. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. Fabien Toquet.
Oui, sur cette question du pouvoir monétaire des États, en fait, garder l'argent liquide, c'est aussi une question de souveraineté stratégique des États, et notamment en Europe. On en parle beaucoup suite à la crise sanitaire. Il faut renouveler la résilience de notre économie, la souveraineté de nos pays. Or, on voit l'émergence de crypto-monnaies, notamment celle qui s'appelle Libra de la part de Facebook, qui fait concurrence directement au pouvoir monétaire des banques centrales européennes. On voit aussi que ce sont les acteurs américains, Visa, Mastercard notamment, pour ne pas les citer, qui ont une espèce de monopole sur les cartes bancaires. Et donc, alors que l'argent liquide, ça, c'est un patrimoine national, si j'ose dire, et même maintenant européen. Donc, ce serait extrêmement dangereux de ce point de vue de l'attaquer, entre guillemets. Et sur cette question des commissions que citait l'auditeur précédent, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, les commissions au sens large, que ce soit les cotisations cartes, mais aussi les frais d'incident bancaire dont je parlais tout à l'heure, ça représente à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires dans le chiffre d'affaires des banques françaises, et rien que 6,5 milliards d'euros pour les frais d'incident, qui sont prélevés par définition sur des clients qui traversent des difficultés financières et qui les enfoncent de plus en plus. Donc là, on a un véritable problème. Dans le modèle économique de la banque de détail, il est extrêmement déséquilibré et c'est le cas depuis 10 ans au fur et à mesure que les taux d'intérêt des prêts immobiliers ont baissé.
Et en même temps, Pascal Hébel, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, le cash a forcément un coût pour l'État. Est-ce que si on réduit fortement le cash, est-ce que ça a une vraie incidence? Est-ce que réellement ça coûte moins cher d'en fabriquer moins? On sait ça ou pas?
Ah, je suis pas certaine que le supprimer ça coûte moins cher qu'en effet tout ce que ça coûte globalement de faire du numérique où en effet derrière il faut avoir des distributeurs, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont mises en place. C'est simplement qu'on voit bien quand même que si on n'avait pas eu cette façon de payer, je ne sais pas comment on aurait fait pendant le confinement. C'est-à-dire que ça a quand même permis, comme en effet, même les relations sociales ont pu se faire. C'est pas vrai que pendant le confinement, on n'a pas eu de relations sociales, on n'a pas eu de relations physiques. Mais c'est bien grâce au numérique qu'on a pu continuer à avoir partie de l'économie, notamment. Qu'est-ce que ça aurait été comme effondrement économique si on n'avait pas eu tous ces outils?
Et en effet, Fabien Toquet, même sur l'argent, pendant la période du confinement, qui aurait rempli les distributeurs, puisque les banques étaient fermées, ça aurait été nettement plus compliqué, malgré tout, pendant cette période-là, si le sans-contact, la carte bleue, n'avait pas été roi et reine, non? Qu'est-ce que vous en dites?
Ouais, tout à fait. En fait, le cash, c'est toute une logistique hein, derrière. Ouais. Il y a la Banque de France, notamment, les transporteurs de fonds, et puis bien sûr, les banques. C'est toute une économie et les banques centrales d'ailleurs reconnaissent l'intérêt stratégique de maintenir le cash pour l'économie, notamment face à un risque qui est émergent et qui est probablement devant nous également, c'est celui des cyberattaques et des pannes informatiques. On sait aujourd'hui que les banques, elles sont attaquées régulièrement par des acteurs étrangers parce que ce sont des acteurs systémiques. Et aujourd'hui, il faut maintenir ce cash en cas de panne informatique. Il y a 2 ans, les cartes Visa ne marchaient plus au Royaume-Uni pendant toute une journée. C'est catastrophique pour une économie. Et là, on est bien content de trouver du cash dans son portefeuille. Mais encore faut-il pour ça que le cash circule très régulièrement et qu'il faille donc retirer régulièrement du cash pour en avoir sur soi.
Sophie, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Voilà, moi je suis une personne non-voyante et je ne suis pas une jeune femme, je suis retraitée depuis longtemps et j'utilise la carte bancaire, j'en suis très contente. D'abord parce que les distributeurs automatiques de billets ne sont pas toujours adaptés pour nous.
C'est le moins qu'on puisse
dire. Par exemple, ma banque, le Crédit Lyonnais, ils ne sont pas adaptés du tout. Et pendant le confinement, j'étais bien contente d'avoir ma carte parce que je ne sais pas comment j'aurais pu m'approvisionner. J'habite Paris, donc c'est vrai que c'est assez simple. Mmh. Chez les commerçants du quartier, personne ne pouvait tirer d'argent avec moi et il aurait fallu aller très loin. Enfin, voilà. La deuxième raison pour laquelle je suis très contente, c'est que sur Internet, avec quoi je me débrouille un petit peu, je maîtrise pas bien, mais bon, je peux voir à tout moment où j'en suis de mes achats et suivre parfaitement mes comptes bancaires. Après, je ne suis pas naïve. Je suis très consciente de l'atteinte à nos libertés que ça implique. Et aussi, je souhaiterais quand même qu'on n'en vienne jamais au tout numérique parce que je suis aussi très consciente qu'un certain nombre de personnes sont obligées d'avoir des espèces, quoi. Mais le monsieur qui disait qu'on n'avait qu'à tirer du cash plus souvent, ben non, cher monsieur, parce qu'il faut quelquefois faire des kilomètres avant de trouver des DAB adaptés. Voilà.
Merci beaucoup, Sophie, pour votre question, Fabien Toquet. Alors, non seulement la raison, Sophie, les DAB ne sont pas adaptés, les distributeurs automatiques, mais surtout le nombre de DAB, de toute façon, est en train de baisser. Moi, j'ai un chiffre sous les yeux qui date de 2018, qui dit qu'il en reste à peu près 54 000. Il y en avait 59 000 4 ans avant seulement. Donc, de toute façon, ces distributeurs sont en train de disparaître.
Oui, effectivement, je confirme vos chiffres, mais en fait, c'est pas une fatalité. Le problème pour les banques, c'est que le cash, ça leur coûte beaucoup. Or, les retraits sont globalement gratuits. Donc, en fait, les banques, elles perdent de l'argent en installant des distributeurs, en faisant circuler le cash. Mais c'est bien cette question-là, en fait, qu'il faut traiter. C'est comment on fait pour qu'il y ait plus de distributeurs aujourd'hui, notamment dans les zones rurales. Comment on fait pour avoir le juste prix pour ce bien essentiel qu'est en fait l'argent liquide. Donc, je suis d'accord avec madame pour dire qu'il y a des difficultés, mais c'est pas une raison pour supprimer le cash. Bien au contraire, il faut consolider cette place du cash dans notre économie et dans le budget des Français.
Et parmi les thèmes qui disent qu'il faut que parfois quand même trop de cash est mauvais pour l'économie, il y a cette question de Sophie qui est au Pré-Saint-Gervais et qui nous dit que moins de cash permet quand même de nous préserver de trop de travail au noir. Pascal Ebel, est-ce qu'on sait quelle est la... On a une idée de ce que représente le cash dans ce genre d'activité économique parallèle qui parfois et pour certains sont indispensables.
Oui, on s'en est rendu compte pendant le confinement.
Hein.
Ceux qui ont le plus souffert du confinement, c'est ceux qui étaient payés au noir. Et donc, on sait qu'il y a, on sait pas, je sais pas le chiffrer, je sais
bien
pas
sûr.
Vous le dire, mais je pense à d'autres avantages des cartes. Hein, c'est que le liquide, on le perd. Le liquide, on se le fait voler. Alors que sur les transactions, on est plutôt couvert, hein, surtout tout ce qui est carte bancaire, etc. Donc, il n'y a pas que des avantages à avoir du cash. C'est-à-dire que c'est le mettre sous son matelas et le voir disparaître, la valorisation sur un compte, il y a des pays où sur le compte en banque, vous avez, quand les taux d'intérêt sont hauts, on valorise ce que vous avez sur votre compte en banque. Le liquide peut perdre beaucoup de valeur.
Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Thierry.
Alors voilà, moi j'ai un petit problème, je suis sous curatelle. C'est-à-dire que j'ai une carte bancaire qui me permet de retirer de l'argent, mais je ne peux pas payer mes achats autrement qu'en cash.
Vous avez une carte de retrait, en fait, qui n'est pas une carte bancaire, c'est une carte de retrait.
Ouais. Mmh.
Et donc sans cash, vous ne pouvez pas faire.
Et comment je peux faire sans cash ?
On a bien compris, Thierry, et vous avez bien raison. C'est un peu ce que vous évoquiez. Merci beaucoup pour votre remarque. Fabien Toquet, c'est ce que vous évoquiez. Il y aura toujours des cas comme celui de Thierry et comme d'autres qu'on pourra considérer comme étant des cas particuliers. Peu importe, ils sont là, ils existent. Il y aura toujours des cas comme ça qui feront que, de toute façon, le 100% sans cash ne peut pas exister, au fond.
Effectivement, il y a 4% des Français qui n'ont pas de carte de paiement. Et ce chiffre, en fait, il est là depuis longtemps. Et on ne pourra jamais aller à 100%. Parce qu'il y a des personnes qui ont des handicaps, qui oublient le code de leur carte bleue toutes les semaines, etc., etc. Et en fait, il y a tellement de différences dans les situations des consommateurs qu'en face, il faut leur garantir une liberté de choix dans les différents moyens de paiement. Et le cash y a toute sa place, a fortiori, puisque c'est le seul moyen de paiement qui est reconnu par le législateur comme devant être accepté par n'importe quel commerçant en France.
Une question qui est similaire, et c'est celle de Luce sur franceinter.fr. Je vous la lis, vous y avez partiellement répondu, bien sûr. Suite à différents événements de ma vie, je me suis retrouvée surendettée avec un plan Banque de France. J'ai donc bien une carte bleue, mais je ne peux l'utiliser que lorsque le terminal peut vérifier auprès de ma banque s'il y a de quoi payer ce que j'achète. Je ne peux donc pas utiliser cette carte dans les pompes à essence, par exemple, ou sur l'autoroute. S'il n'y a plus de possibilité un jour de régler en liquide, comment vais-je faire ? Fabien Tocquet, cependant, j'imagine que vous faites partie, vous, à l'Union nationale des associations familiales, qui envoyez ce genre de signaux. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on s'achemine vers un zéro cash ? Peut-être qu'on peut augmenter les pourcentages dont Pascal Hébel parlait au tout début de cette émission, mais le zéro cash, des associations comme la vôtre, encore une fois, j'imagine, alerte contre les dangers que ça peut représenter, non ?
Oui, tout à fait. Vous savez, il y a 10 ans, on disait qu'il fallait tuer le chéquier. Il y a des intérêts économiques derrière, évidemment. Le chéquier, c'est pareil, ça coûte très cher aussi aux banques, notamment.
Mmh. Enfin, en même temps, le chéquier, il bouge encore, mais pas beaucoup. Hein.
Voilà, il est sur une pente relativement descendante, mais il y a toujours 10% des transactions en France qui se font avec le chéquier. On est les champions d'Europe. Mmh. Donc, il y a aussi des aspects culturels, en fait, qui sont liés aux capacités des populations. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, toute personne, et c'est pas une question d'âge, a besoin à un moment donné de passer par le cash pour préserver son pouvoir d'achat, pour préserver l'accès à des biens essentiels comme l'alimentation. Mmh. Et a fortiori, quand il y aura de plus en plus de pannes informatiques ou de cyberattaques des banques, on sera vraiment très content d'avoir cet outil de résilience pour l'économie, mais aussi pour les consommateurs.
Pascal Hébel, c'est intéressant ce côté effectivement très culturel. Vous l'évoquiez en tout début d'émission. Il y a des pays qui ont un mal considérable à sortir du cash, d'autres beaucoup moins. On est très différents en Europe sur ce même sujet. Et je vous pose la question parce que on voyage en Europe les uns et les autres, donc on doit aussi se heurter à ces difficultés-là. Si on se retrouve en voyage en Suède, par exemple, où le cash a quasiment disparu et qu'on n'est pas prévenu, bah ça fait une vraie différence.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on fait plutôt partie de ceux qui utilisons plus de cartes bleues que du cash. Hein. Mais en effet, il y a des pays comme l'Allemagne où le cash est encore culturellement, on y est encore plus attaché qu'en France. Donc c'est des différences qui font que nous, on est plutôt moins attaché à avoir des billets avec soi. On n'a pas besoin de montrer sa richesse en montrant ses billets. Il y a aussi tout cette symbolique. Hein. On se souvient, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, de ceux qui aimaient bien montrer en sortant leur portefeuille qu'ils avaient plein de billets partout pour montrer qu'ils étaient riches. C'est aussi une façon de finalement, en enlevant ce facteur culturel-là, de changer les normes et d'être moins dans l'ostentatoire et à montrer chacun nos différences.
Mais vous savez, on peut aussi à l'américaine déballer la liste des cartes bancaires qu'on a et les faire tous descendre du portefeuille. Ça marche aussi pour montrer un signe extérieur de richesse. Gaspard est là. Bonsoir Gaspard.
Oui, bonsoir.
On vous
bonsoir,
écoute.
Bravo à France Inter pour vos émissions.
Merci beaucoup Gaspard.
Je voulais juste insister sur deux points. Le premier, c'était pour dire qu'il y a tout un écosystème, toute une chaîne logistique fiduciaire avec des emplois qui sont non délocalisables derrière le cash. Je pense que ça, on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur ce sujet-là. Au-delà de la problématique de l'indépendance, il y a vraiment derrière des emplois qui sont non délocalisables en termes de logistique. Et puis le deuxième point, ça porte sur le soutien au commerce de proximité. Je crois que c'est assez clair que le cash, si vous voulez, permet de soutenir et de renforcer les petits commerces avec des petits paniers moyens, si vous voulez. Clairement, il y a un impact qu'on a pu mesurer qui est de l'ordre de 10, 15, voire 20% de chiffre d'affaires additionnel pour des petits commerces qui ont un distributeur contre ceux qui n'en ont pas à proximité. C'est pour ça que les collectivités locales sont très sensibles à ce sujet parce qu'elles veulent préserver leur commerce de proximité. Ensuite, si vous voulez, c'est un choix de société. C'est-à-dire que soit on dit, eh ben non, mais on ne veut plus, on ne souhaite pas préserver ces commerces de proximité. Tel cas, effectivement, le cash n'est plus nécessaire, mais si on souhaite les soutenir, je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion sur les impacts indirects que ça peut avoir sur ces petits commerces.
Merci beaucoup pour vos remarques, Gaspard. Fabien Tocquet, c'est intéressant ce que dit Gaspard. Un commerce de proximité avec un distributeur à côté et celui qui n'en a pas sont deux commerces bien différents.
Oui, absolument. C'est pas pour rien que les élus des collectivités se battent pour maintenir des distributeurs. Ils savent très bien que c'est fondamental pour attirer des commerces et donc de la vie et donc tout simplement du lien social. La crise, elle a montré ça aussi, c'est que on n'a pas forcément uniquement besoin de flux monétaires à distance, on a aussi besoin de liens sociaux.
Notre auditeur Gaspard parlait des emplois qui sont non délocalisables. Je vais pas vous piéger. Est-ce qu'on sait combien ça représente d'emplois au fond? Est-ce qu'on peut dire le cash, tant de divisions?
Non, je n'ai pas ce chiffre en tête, mais je sais que la Banque de France a notamment toute une filière industrielle pour la circulation des billets. On pourrait également parler de la monnaie de Paris qui, elle, est en charge de produire toutes les pièces de monnaie.
Eh bien, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à vos nombreux appels aussi, comme d'habitude, au 01 45 24 7000 et portez-vous bien.